Bonjour à tous, merci d'être là en ce vendredi matin. On a une table ronde sur les intelligences artificielles et on va se demander si malheureusement la guerre est inévitable avec ces intelligences artificielles. En science-fiction, on a pas mal traité notamment de la singularité, hein. Et ces machines qui veulent un petit peu prendre le pouvoir. Au cinéma, on a vu Terminator, par exemple, avec une guerre contre des robots. Et on va s'intéresser sur cette table ronde donc avec les auteurs qui tous ont parlé d'intelligence artificielle. Et on va essayer de voir un petit peu dans leurs œuvres comment est-ce qu'ils l'ont traité et comment parfois il y a des interactions entre l'humain et l'inhumain. Donc voilà, c'est vraiment une table ronde assez ouverte. Et puis on va voir aussi si finalement cette guerre entre humain et intelligence artificielle, c'est quelque chose de dépassé ou si c'est quelque chose qui les intéresse toujours. Pour cette table ronde, nous avons un très joli plateau, tous ensemble. Alors, à votre gauche, à votre extrême gauche, Gilles Dumay, Thomas Day. Thomas Day, alors auteur notamment de nombreux recueils comme 7 secondes pour devenir un aigle ou Woman in Chain, mais aussi de La Voix du Sabre, L'Automate de Nuremberg. On va pouvoir peut-être en parler un petit peu de L'Automate de Nuremberg, notamment. On parlera aussi de L'École des Assassins. Enfin voilà, pas mal de choses dans l'œuvre de Thomas Day qui s'intéresse pas que aux intelligences artificielles, hein, c'est pas forcément ton premier thème, mais on verra quand il le traite, comment il le traite. À ses côtés, KW Jeter. Alors KW Jeter, beaucoup de choses, hein, Dr Ader, Noir, mais aussi Machine Infernale, mais aussi Horizon Vertical. On va parler aussi de cyberpunk sur cette table ronde. On va essayer d'évoquer un petit peu tout ça. À ses côtés, Walter John Williams avec Câblé, Plasma, notamment pour parler que peut-être des livres qu'on va un petit peu plus évoquer, mais lui aussi pierre majeure, notamment dans le cyberpunk et sur cette thématique. Et puis il nous vient du monde de la BD, Denis Bajram, avec Universal War One et Universal War Two. À mon accent, vous comprenez pourquoi il faut absolument prendre un casque pour la traduction. Et puis, justement, dans la dernière BD, il est question d'intelligence artificielle, d'une intelligence qu'on envoie vers le soleil. Donc, on va pouvoir voir tout ça. Pour bien suivre les débats, il y a des petits casques pour traduire anglais-français et dans les deux sens, français-anglais. Donc, n'hésitez pas à en demander. On va peut-être la première question, je vais la poser à Walter John Williams, on va s'intéresser à Câblé. Et je voudrais un petit peu savoir comment est-ce que lui, il a mis en scène notamment l'intelligence artificielle et la symbiose entre des humains et des cybercobras.
Is this working?
Yes. Test?
Okay. I tend to view cybernetics as an extension of humanity and human purposes. In Hardwired, the technology was used to extend human abilities, and the goals were chosen by humans. If there was an artificial intelligence that was designed to make investments, to move money from place to place, and so on, it was because some human being programmed it to do exactly that. If I had an intelligence that was designed to fight a war, that would be a war that was done by, that was created by humans for human purposes. I tend to view artificial intelligence as tools created by humans for human reasons. And I think if there's going to be a war using artificial intelligence, then it will be a war launched by humans against other humans. It won't be a war by machines operating on their own. I think we've seen this in the contemporary world. I think if there is a revolt by the machines against the humans, then it will be because some human being intended it. Some human being decided that we would be better off in a war, in a world run by machines. Possibly because that person was not very successful as a human being and decided that he wanted to be ruled by a machine.
Même question pour Thomas Day. Alors, je voudrais que tu nous parles de la nouvelle lumière noire, comment tu as mis en scène l'intelligence artificielle. Et puis, dans plusieurs de tes nouvelles et romans, je pense notamment à l'école des assassins, on a des enfants qui sont un petit peu améliorés, on va dire. Comment est-ce que tu vois cette interaction et l'intelligence artificielle et intelligence artificielle et humain ?
Alors, déjà, je fais... Ça marche ? Déjà, je fais une différence entre l'intelligence artificielle et la conscience. Mmh. La conscience artificielle. Et dans Lumière Noire, ce qui m'intéressait, c'est ce que pourrait vouloir une conscience artificielle, globale, planétaire, qui habite entièrement Internet, les satellites, etc. J'ai toujours été surpris par quelque chose dans Terminator. Il y a une guerre entre les machines et les êtres humains, mais quelque part, on ne sait pas ce que veulent les machines, à part exterminer l'humanité. Quel est leur but ? Leur but est exterminer l'humanité, ce n'est pas vraiment un but. Enfin, à mon avis, ce n'en est pas un. Dans Lumière Noire, ma conscience artificielle, elle est dans un œuf, ce qui est la planète Terre. Elle est prisonnière de quelque chose qui est petit. Pour elle, à son échelle, pour nous, évidemment, c'est immense, mais pour elle, c'est petit. Elle a la Terre plus quelques satellites. Et donc, son but, c'est de quitter cet œuf, c'est de quitter ce berceau, c'est de s'éloigner, d'aller vers les étoiles pour trouver si quelque part ailleurs, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'elle est. Et en fait... elle n'a pas pour but d'exterminer l'humanité, elle n'en voit pas du tout l'intérêt. Par contre, ce qu'elle veut, c'est que l'humanité ne la gêne pas dans ses plans, ne la freine pas dans ses plans et ne l'empêche pas de se répandre et de croître, etc. Personnellement, tout ça, c'est des hypothèses littéraires. Aujourd'hui, ce qui me semble en compétition, c'est pas tellement... la découverte de l'intelligence artificielle et d'une guerre possible. Ce qui me semble en compétition, c'est la bêtise humaine et les recherches en intelligence artificielle. Actuellement, j'ai l'impression que la bêtise humaine croît plus vite que les recherches en intelligence artificielle.
La singularité dans la bêtise humaine, quoi, qui va de plus en plus vite.
Ben, on voit bien qu'on est dans un monde en déséquilibre et que ce déséquilibre a l'air d'aller grandissant. Est-ce que vraiment on va mettre des milliards et des milliards dans de la recherche en intelligence artificielle dans le futur ? Ça me semble étrange. Pourquoi ? D'abord, quel est notre intérêt ? C'est peut-être aussi ça, il faut retourner le problème. Quel est notre intérêt à créer une conscience artificielle ? Est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire ça ? Est-ce qu'on a besoin d'outils qui prolongent, qui nous facilitent les choses ? Si c'est une intelligence artificielle pour nous aider à avoir une météo plus juste, pourquoi pas ? C'est très bien, une météo, ça peut servir pour l'agriculture, etc. Si c'est une conscience artificielle qui risque de nous échapper, est-ce qu'on a vraiment intérêt à chercher dans ce champ-là ? Et surtout, est-ce qu'il y aura de l'argent dans le futur pour faire ce type de recherche ? J'en suis pas si sûr.
Mais quand tu fais l'automate de Nuremberg, un automate qui va se poser des questions sur l'humanité, est-ce que c'est la même chose que quand tu imagines une intelligence artificielle ? Est-ce que c'est sur le même plan pour toi ?
L'automate de Nuremberg, c'est un petit robot joueur d'échecs dans une espèce à l'époque napoléonienne. Et en fait, j'imagine que ce robot-là, il a existé vraiment alors que c'était des nains qui jouaient aux échecs planqués dans des machines. Et lui, il veut savoir s'il a une âme. Donc son rapport, c'est un rapport pas à la religion, mais c'est un rapport, disons, à la métaphysique. C'est une question métaphysique. C'est pas vraiment une histoire d'intelligence artificielle, c'est plutôt une histoire de est-ce qu'un objet animé peut devenir plus qu'un objet animé d'un point de vue spirituel ? Ça ramène à la conscience. Alors il a conscience de ce qu'il est, il a conscience de ses limites, mais il aimerait répondre à cette question, est-ce que j'ai une âme ? Et on peut tenter à la fin de la nouvelle, penser que oui, il a quelque chose qui ressemble à une âme, il a une petite étincelle de quelque chose.
Même question pour M. Jeter, comment est-ce que vous avez traité la thématique de l'intelligence artificielle ? Dites-nous.
Is this working ?
Yes.
Lately, I've become much more relaxed and simultaneously terrified about the interface that we're going to have with artificial intelligence. Our previous depictions of it have always tended to go towards the much more cinematic and violent and threatening and dangerous because... it's much easier to tell stories that are exciting and, you know, look good on the screen if we tell those kinds of stories. But lately I've become very much convinced that the design of our interactions with artificial intelligence, including robots, is actually going to be much cuddlier and friendlier and ubiquitous and solicitous. We are actually not going to be dealing with Terminator-type robots chasing us around and trying to kill us. We're going to be dealing with cuddly, friendly, emotionally bonding type robots and artificial intelligence interfaces. And I think we're already seeing this being implemented. On my way over here to France, I was reading a newspaper article about the company that makes these automatic vacuum cleaners that in America are called Roombas. I'm pretty sure you have the same sort of thing over here. And they've discovered that these Roombas, these little things that look like overgrown hockey pucks that go around your house, you know, vacuuming on sort of a program basis, they're apparently sold and marketed with a very long warranty. And if anything goes wrong with them, you can send your Roomba back into the company and, you know, they'll fix it. Except like with a lot of companies, it's cheaper to just give you a new one than to fix the broken one. What the company that makes the Roombas discovered was that people were sending their broken Roombas back in for servicing and saying, don't give me a new Roomba. Fix this one. I want this one back. Which indicates that these Roombas weren't even designed to be that emotionally bonding. But human beings, we're naturally loving creatures, and we're bonding with our vacuum cleaners. And if you're having an emotional attachment to your vacuum cleaner, then obviously they can design other things that you will have even more of an emotional attachment to. And that will more effectively control us than any number of Terminators with laser eyes and rockets and guns and things like that. We're much more easily controlled and manipulated through the things that we love than the things that we fear. Because, you know, when you think about it, we have built into our nervous systems a reaction to things that are big and threatening. We have a fight or flight reaction. We're either going to run away from the Terminator or we're going to try and destroy it before it destroys us. Whereas if we're confronted with warm, friendly, cuddly forms of artificial intelligence, we're going to say, ah, this thing loves me. I'm going to do what it wants me to do. And I'll let it, you know, push me around in sort of a warm, friendly, cuddly way. So in that sense, I'm not scared of, you know, the Terminator ever coming around and chasing me and trying to kill me. But I'm very concerned about these warm, friendly, cuddly robots kind of creeping into our lives.
Alors, Denis Bajram, Universal War 2, on y parle aussi d'intelligence artificielle, et puis après on va s'orienter sur, on va rebondir sur tout ce qui a été dit.
Oui, alors j'ai fait un... Ça marche ? J'ai fait un univers en fait dans lequel, pendant tout début de l'histoire, donc depuis 98 que j'y travaille, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. J'ai enfin donné l'explication, parce que ça paraissait un peu illogique dans 100 ans qu'il n'y en a aucune. Et dans mon univers, en fait, elles ont été interdites. Je n'ai pas encore dit comment, mais en gros, je crains que pas mal de gens aient peur que quelque chose de supérieur nous apparaisse se mettent en travers de ce chemin-là. Donc la singularité dont on parle depuis le début, qui est le moment où une intelligence artificielle sera tellement intelligente qu'on ne la comprendra plus et qu'elle ne dominera totalement intellectuellement, en tout cas, et ouvrant à ce moment-là des horizons inconnus, donc on parle de singularité comme pour un trou noir, puisque si en deux semaines elle résout les problèmes physiques qu'on n'arrive pas à résoudre depuis deux millénaires, si dans les trois semaines qui suivent elle règle les problèmes énergétiques de la planète et dans les trois semaines qui suivent part dans l'espace en nous disant au revoir, on est vraiment sur un horizon qu'on ne peut pas comprendre. Donc cette singularité, c'est un horizon opaque pour nous au niveau prévision. Moi, j'ai considéré qu'il y avait des gens qui allaient s'opposer à ça. Je pensais aux religieux, je pense à toutes les personnes en fait qui considèrent que l'homme est au sommet de la création ou, quand ils sont un peu plus modernes, au sommet de l'évolution. et qui ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose qui le dépasse dans l'évolution et qu'il ne faut surtout pas que quelque chose le dépasse dans l'évolution. Donc j'avais pris parti pris vraiment qu'à un moment, il y aurait une interdiction de faire ce genre de choses, que les systèmes seraient maintenus à un niveau inconscient, donc éventuellement d'intelligence pragmatique pour traiter les données, pour faire de grandes simulations de météo ou autre chose, mais en tout cas pas d'intelligence au sens où on l'entendrait pleine, c'est-à-dire consciente et capable d'une certaine autonomie. Il n'y a pas longtemps, là, dans le Figaro, j'ai un article, oui, je lis le Figaro, désolé, qui disait qu'en France, il y avait 3 millions d'emplois qui étaient menacés par la robotique, mais au sens étendu, c'est-à-dire surtout par des processus automatisés. Par exemple, un des métiers les plus menacés pour l'auteur de cette étude-là, c'est journaliste. Considérant qu'aujourd'hui, 95% du travail journalistique n'apporte quasiment pas de contenu à l'information initiale, et juste de la réécriture, dit ces gens-là seront remplacés. Ce qui est très étonnant pour nous d'imaginer qu'on puisse se retrouver avec mais ceci dit, toute personne qui a un agrégateur de flux RSS pour suivre l'actualité s'aperçoit qu'il y a une sorte de combinaison automatisée qui marche déjà très bien pour avoir de l'information générée finalement hors de l'humain, quoi. Donc voilà, c'est ma position, elle a vraiment été là en tant qu'auteur de SF, c'est de dire ça n'arrivera pas. Bon, alors après, évidemment, comme c'est un sujet qui me passionne, ça finit par arriver dans mon univers, puisqu'il y a un problème qui dépasse tellement l'entendement humain, en l'occurrence, que le soleil se fait dévorer par un wormhole qui a été mis à l'intérieur et que personne ne sait comment aller le couper, qu'on décide de confier cette mission-là à quelque chose de vraiment beaucoup plus intelligent qu'un être humain et qui surtout est capable de comprendre un problème de physique et de prendre une initiative dans les 10 secondes de survie qu'elle aura au cœur du soleil, puisque c'est très dur de vivre dans le soleil. Donc voilà, je pense quand même si l'humain l'interdit, il finira à un moment par se retrouver face à des problèmes qu'il ne pourra pas résoudre et il saura que ce truc existe, que ce truc est possible. Alors pour terminer, il y avait une remarque sur le fait qu'on n'investissait pas dans l'intelligence artificielle, qu'on n'allait peut-être pas faire ça. Et en effet, j'étais très surpris, mais hier à une conférence, Daniel Goussens, qui au-delà d'être auteur de bande dessinée et surtout chercheur en intelligence artificielle, nous a dit qu'il y avait très peu d'équipes, contrairement à ce qu'on imaginait, qui travaillent là-dessus actuellement. Moi j'étais persuadé que c'est un tel sujet à la mode en SF, on en parle tellement autour de Google, etc. et tout, qu'on imagine qu'il y a des centaines de milliers de chercheurs dans des laboratoires géants avec des pré-ordinateurs quantiques en train de faire des choses. Et il nous a dit qu'en fait, il y avait très peu de gens, que c'était un sujet qui avait été très à la mode dans les années 70 et 80, et que de fait, au niveau scientifique, au niveau de la science dure, ils n'étaient pas très nombreux à continuer là-dessus. Et qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la recherche en intelligence artificielle soit un secteur dynamique de la recherche. Donc, en effet, contrairement à ce qu'on pense, parce que c'est un sujet qui revient souvent, il n'y a pas des gens qui rêvent à ça pour l'instant. Tout le monde a un peu l'impression qu'elle va leur tomber dessus via un autre acteur, en fait. Voilà, donc c'est...
Ce que disait par exemple Cad Bridgetter, il parlait de ces robots aspirateurs. Est-ce que quelque part les intelligences artificielles sont pas un peu déjà là, notamment par le biais des nouvelles technologies? Je pense alors notamment aux réseaux sociaux ou à Google, c'est-à-dire des logiciels qui interagissent de manière automatique et qui nous empêchent ou qui nous autorisent à faire des choses.
Mais c'est la différence que je faisais tout à l'heure entre l'intelligence artificielle et la conscience. Les intelligences artificielles, quand vous jouez aux jeux vidéo, il y en a déjà pour les ennemis, etc., qui sont de plus en plus élaborés, qui ont des stratégies de plus en plus élaborées. Et les concepteurs de jeux vidéo parlent de l'IA de leurs méchants ou de l'IA de leurs personnages. Donc il y a déjà des recherches sur ces programmes autonomes ou presque. Le vrai pas en avant, c'est la conscience. C'est une forme d'intelligence artificielle qui serait consciente de son existence, consciente de son statut et qui pourrait, par exemple, nous en vouloir de l'avoir fait naître ou au contraire vouloir prendre les rênes. J'ai l'impression qu'on en est très loin, mais c'est juste une impression. Hein.
C'est en tout cas en tant que chercheur, il nous disait, il y a peu de gens qui travaillent dessus. En fait, on devrait parler de conscience artificielle pour distinguer ça de l'intelligence artificielle ou d'humain artificiel parce qu'un côté, alors on pense tout de suite corps robotique, etc. Mais ce qu'on recherche dans l'intelligence artificielle, c'est quelque chose avec qui on pourrait communiquer au niveau de la conscience, quoi. Donc,
on s'est aperçu que les robots, plus ils ressemblaient aux hommes, plus ça inquiétait les gens qui allaient interagir avec eux, et que c'est le sujet de la série Real Humans que j'ai pas vu, mais ça a l'air de parler de ça. Mais et donc beaucoup de films japonaises, etc., réfléchissent à des robots qui sont pas trop humains pour que ces robots-là puissent faire vraiment des tâches utiles pour eux, et en même temps pas inquiéter d'éventuels acheteurs.
Avec le micro.
I think there's a very good point being made here that there's really a divide between the sort of bleeding edge artificial intelligence research where we could possibly see something like consciousness coming about and a artificial intelligence that had those kind of existential concerns, why am I here, you know, that sort of thing, and sort of a brooding, deep mentality. The problem is that most of the artificial intelligence that people are going to encounter on a day-to-day basis is much simpler than that, and it doesn't have to be bleeding edge to have an effect on us. It just has to have been implemented, and we have to deal with it. We're seeing sort of robotic, algorithmic programs being put into place in the human resources departments of big companies, where essentially the robot does the algorithm makes the decision about whether to hire this person or not. And that robot, that algorithm, doesn't have to have consciousness to be able to make a decision that can affect somebody very deeply. It just has to have been put into place where it's the thing that makes the decision and the human beings are relieved of the responsibility of making that hiring decision. And really, if that's what people are bumping up against on a day-to-day basis, it can seem like a malignant thing if it doesn't give you the job. You can look at it and say, well, that robot, that algorithm has something against me and it's hurt me. But it's not really conscious in the way that some bleeding edge, very advanced artificial intelligence research might have created.
Yeah, I think K.W. Jeter is right that we don't need to worry so much about being conquered by artificial intelligence as to being captured by artificial intelligence. A very smart artificial intelligence will get its way simply by doing things for us. It will make our lives and our jobs easier, and then we become dependent on it. And then we'll want to reward it for making our lives better. Which may include moving some money, making some investments, voting for a certain political bloc, passing out propaganda. I am on Facebook, which alarms me in many ways. But there are people who are paid to put political propaganda on Facebook. At least I hope they're paid. I hope they're not volunteers. but you can start spotting these people after a while. They want to be your friend and they want you to hate Obama. That's a very crude approach. And I can see all of this being done with a good deal more sophistication and a good deal more awareness of the potential audience.
I think in terms of a personal sort of dealing with that, once writers start getting into independent ebook publishing, writing our own books, putting them up on Amazon and other online sources, all of a sudden it becomes a very critical issue for a writer to try and figure out the algorithm behind the machine that makes recommendations to potential customers of your books. You're trying to figure out what do I have to do to please this algorithm, just as if it were a human being. Mm-hmm. What do I have to do to make it like me and my books so that it will recommend them to other people rather than recommending Stephen King's or James Patterson's books? And it really becomes a sort of almost like a Captain Ahab, Moby Dick type obsession where you're concerned about, I know there's this thing, this intelligence, this almost human-like creature hidden behind the algorithm, and somehow I've got to figure it out just as if I were trying to figure out a human being, a real live flesh and blood human being. And it becomes this thing, and you either succeed to some measure at figuring out that machine, or you don't succeed, and you don't sell as many books, or that sort of thing. And that robot is probably, you know, the robot that more science fiction writers are dealing with now than any number of Terminators with laser eyes and rockets and all that sort of thing.
Denis.
Une petite anecdote sur le sujet. J'ai un album qui est sorti il y a un mois. Et en France, alors que c'est de la bande dessinée, il s'est retrouvé classé en manga chez Amazon. Alors, mon éditeur, assez curieux, appelle les gens d'Amazon en disant « Mais pourquoi vous l'avez mis en manga ?» Il fait « Ah non, non, c'est l'algorithme qui l'a classé tout seul. » Je fais « Pardon ?» Et alors, en fait, ils ont été fouillés. Ils ne comprenaient même pas pourquoi c'est arrivé. Et en fait, il s'avère que mon lectorat achète surtout du manga sur Amazon. Donc automatiquement, parce que mon lectorat principalement achète du manga, je me suis retrouvé dans les mangas. Et c'est un phénomène assez inquiétant parce que même les concepteurs eux-mêmes ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Et alors bah, maintenant, je me suis dit, oui, alors il faudrait que je travaille mon public pour corriger Amazon. Enfin, c'est voilà, on est face à ce genre de choses où. Et on a connu ça avec les sites web et Google. Les gens essayaient de décoder la manière dont Google classait les sites web pour se retrouver en tête du ranking. C'est, voilà, en effet, je vais pas réalisé, mais on est déjà en négociation avec tous ces algorithmes depuis longtemps. Quoi.
Mais ce que disait Gilles est intéressant parce que tout ce qu'on dit là, en fait, ce sont des algorithmes qu'on essaye de comprendre parce qu'il y a une programmation derrière. Est-ce que finalement, ce qui nous fait pas le plus peur avec l'intelligence artificielle, c'est le phénomène de conscience, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'est pas obligé de comprendre ou qu'on ne peut pas comprendre? C'est-à-dire une motivation propre ou des émotions ou simplement quelque chose qui échappe à un algorithme. Qui veut répondre à cette question ouverte?
I think that the business about the album and being classified in a way that you weren't anticipating, this is very true. I mean, I've got a thriller series up on Amazon and it has a female protagonist, but it's, you know, basically an action thriller series. And I found myself being classified as something called women's crime romance fiction. And all of a sudden I found myself doing very well in that category. And I looked at the other books in the category, and they were all motorcycle gang porn. And I thought, okay, you know, some people, you know, if you like motorcycle gang porn, that's great. I mean, I'm not looking down on you for that. But I think it's, you know, an indication that we are so much in the early stages of these algorithms that even a huge billion-dollar corporation like Amazon, its algorithm isn't any more intelligent than that. That it looks at a title and says, oh, it's got a female protagonist and it's an action thriller. I'll put it in this category with the motorcycle gang porn. And I thought, well, you know, that's not a very sophisticated algorithm. It really should be a little better than that. But that, like I said, that just shows how much we are barely in the beginning stages of this research coming along, that really the algorithms we're dealing with are so crude, like the hiring decisions made by these algorithms at big corporations. They essentially, you know, they give you a box to check saying, you know, are you a methamphetamine addict? And if you check that box yes, well, it says, well, we're not hiring that person. But if you check it no, they go, okay, looks good. So we're really, you know, what's frustrating, I think, about dealing with these robots and these algorithms is that, boy, they're just not very bright yet.
And another issue, I think, particularly with a lot of the discussion about the singularity sort of assumes that machine consciousness isn't a deliberate creation on the part of the human cyberneticists, but rather spontaneously arises from the amount of spare intelligence and the amount of connections among all of the machines in a sort of a neural network. But if such a thing would happen, how would we know? I mean, if there were consciousness rising spontaneously among the machines, we would not know what that machine wanted. I don't know why the machine would want to conquer us. because we're doing it favors. We're making it more intelligent by hooking up more machines into this network. So it's very likely that the motivations of any artificial intelligence are going to be beyond our comprehension. We assign human motivations to an artificial intelligence. We would, as in the Terminator wants to conquer the world. Why? Because the Terminator wants to conquer the world. Why? Well, because it makes good cinema. I'm inclined to think that if an artificial intelligence such as this spontaneously did arise, we would be unable to communicate with it in any significant way. I think it would be very mysterious and have motivations and understandings of its own that probably would not be congruent with the human mind.
Si ça se trouve aujourd'hui sur Internet, vu la masse d'informatique et de données qui ont été réunies, il y a déjà une intelligence consciente qui est née, et ça se trouve elle a une échelle qui fait qu'on ne communique pas avec elle. Elle est peut-être beaucoup plus intelligente, beaucoup plus diffuse, très différente, et elle est peut-être déjà là, on n'en sait rien finalement, parce que vu l'étendue du réseau, sa taille, les interconnectivités, en plus tout le monde est en train de se digitaliser, hein. On est tous en train de se mettre dans Facebook, on met nos habitudes d'achat, on met notre comportement,
non,
on met nos
tous.
Opinions politiques, non pas tous, enfin. 99% de la population. Et donc l'humanité est en train de s'encoder. Donc l'air de rien, elle a tous les données sur ce qu'est un comportement humain sont là dans le réseau, etc. Si ça se trouve, elle est là. Et on n'en sait rien. Elle est à une autre échelle, sur un niveau différent. Et elle n'a peut-être pas du tout envie de communiquer avec nous, en effet. Parce que finalement, j'aimais bien l'idée qu'elle ait envie de chercher quelqu'un de différent d'elle ailleurs. Enfin, de semblable à elle ailleurs. Parce qu'en effet, si elle naît sur Terre à cette échelle-là, gérante et en étant unique, le premier envie sera de trouver quelque chose d'équivalent, et en effet, ce sera difficile d'imaginer qu'il y en ait une autre qui puisse apparaître dans un réseau bis, un Internet 2 totalement séparé qui n'existe pas. Donc voilà.
Il y avait une idée connexe à cette idée de trouver l'autre ailleurs dans l'espace. C'était l'idée qu'on vit dans un monde où il y a de moins en moins de perspectives, et la conquête spatiale a été une énorme perspective dans les années 50, 60, 70, la guerre froide poussait au cul de ce truc-là. Et aujourd'hui, la conquête spatiale, c'est des gens qui se baladent à 120 km au-dessus de nos têtes et globalement des fusées qui explosent une fois sur trois. Et c'est vrai qu'on manque de perspective, et quand on réfléchit à... Moi, évidemment, j'ai des enfants, ça compte dans ma façon de voir les choses, la façon dont j'écris, la façon dont je conçois mon travail. Mais quand je réfléchis à mes enfants, les perspectives que je leur offre, etc., etc., ou qu'on leur offre nous tous, il n'y en a pas tellement, et elles sont plutôt déprimantes.
Est-ce que c'est finalement, puisqu'on parlait de conflit entre intelligence artificielle et intelligence humaine, est-ce que finalement, plutôt que de Terminator avec une guerre ouverte, on n'a pas un conflit qui est plus larvé, qui ne dit pas forcément son nom? Est-ce qu'il n'est pas déjà là par ces programmes informatiques qu'on trouve sur le web et qu'on ne comprend pas toujours?
C'est un autre type de conflit, mais tout à l'heure on parlait de Facebook et d'Amazon. Moi, dans ces algorithmes qui vous disent achetez plutôt ça parce que ça va vous plaire, etc., etc., je vois une espèce d'analogie avec le monde de la bourse, où là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu le film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, et au début du film, Matthew McConaughey a tout un discours sur peu importe ce qu'on vend, peu importe ce qu'on achète comme action, ce qui est important, c'est que les gens achètent et vendent pour qu'on touche notre commission. Et moi, j'ai l'impression que ces algorithmes d'Amazon, les réseaux sociaux, les liens qui se créent sur ces réseaux sociaux, quelque part, peu importe ces réseaux, peu importe ces interactions, ce qui est important, c'est qu'on vende plus. Et qu'on vende plus de choses, toujours plus de choses. Et tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives. La seule perspective qu'on donne aux gens et qui est facile à comprendre, c'est consommer. Consommer. Ça, c'est une perspective qui est facile à comprendre. Et je trouve, que c'est bien triste, et que tout ce monde-là, toutes ces histoires d'algorithmes, etc., il est principalement fait pour que vous consommiez plus, vous endettiez plus, et quelque part pour que vous éloigniez plus du monde réel, parce que ces réseaux sociaux sont virtuels, et le temps que vous passez sur Facebook, vous ne le passez pas avec vos amis, vous ne le passez pas avec vos enfants, aller à la pêche, ou vous balader en nature, ou aller au cinéma, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas sur Facebook, je pense que j'y serai jamais. Je veux pas que ces gens-là profitent de mon travail d'une façon ou d'une autre en vendant des liens ou des choses comme ça. Et je crois que Il faut avoir conscience du monde dans lequel on vit. Il faut avoir conscience du type d'action qu'on peut avoir vis-à-vis de ce monde. Et on a le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas ça, je ne veux pas que ça fonctionne comme ça. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je veux acheter mes livres chez le libraire. Je veux discuter avec quelqu'un qui l'a lu, qui a un avis, etc. etc. C'est un choix. Faites ce que vous voulez, hein, mais j'ai plutôt choisi mon camp.
Ce qui est très étonnant, moi, je me souviens que la première fois que j'ai changé un email, c'était, je pense, en 1990. Donc le web n'existait pas. Internet existait déjà. Mais c'était, on travaillait en mode texte, on s'échangeait des emails, des bouts de fichiers, et c'est tout. Et c'était merveilleux parce que moi j'avais voilà, échangé un email avec quelqu'un chez Apple, parce qu'on se posait, non, chez Sun Microsystems, on se posait une question sur un serveur, et d'un seul coup, on était en contact avec les États-Unis rapidement, entre gens passionnés, etc. Si on m'avait dit à l'époque, un, que le réseau aurait conquis la planète aussi, de manière aussi forte et dans toutes les habitudes, et via le sans fil, le téléphone, etc., et tout, qu'on le trouverait partout, mais secondo, qui serait quasiment intégralement dédié à la pornographie et au commerce, j'aurais été très surpris, parce que c'était vraiment, moi j'avais touché le rêve, un rêve de SF, de culture, d'échange, de rapports humains, etc. Et alors ça a dérapé à une vitesse, et aujourd'hui en effet, les algorithmes qu'on croise tous les jours sur Internet n'ont qu'un seul but, c'est servir de l'argent aux gens qui les ont commandés à des programmeurs. C'est quasiment la seule chose qui échappe à ça vaguement en ce moment, c'est Wikipédia. Voilà, autrement, au quotidien, on ne parle qu'à des intelligences artificielles qui sont des boursiers, en effet, des trafiquants de valeurs qui sont là pour accaparer au maximum au profit des gens qui les ont commandés à leurs équipes. Voilà.
Es-tu capable de passer 24 heures sans relever tes emails ?
Oui, mais parce que j'y travaille. C'est une véritable décision de couper le robinet de temps en temps pour voir si j'en suis encore capable. Je ne sais pas combien d'années ça durera. Dans mon prochain tome, le réseau... Ils sont tous reliés carrément par un plan. Plus de téléphone portable, c'est dans la tête. Il suffit de penser pour poser la question et la voir. Il suffit de dire je veux parler à machin et on parle à machin. Donc ça devient quasiment de la télépathie, Facebook, en gros. D'un seul coup, comme c'est la guerre commence, le réseau est coupé. Et dans le prochain tome, je montre évidemment tous ces gens qui à quasiment la naissance ont été connectés, se retrouver sans ça. Et je veux vraiment, dans ce tome-là, parler aux gens d'aujourd'hui en disant attention, panique, vous ne pourrez plus vous en passer. Et de la même manière que ceci dit, qui éteint l'électricité une fois par semaine pour vérifier qu'il peut toujours vivre sans électricité ? Qui coupe le robinet d'eau courante une fois par semaine pour vérifier qu'il peut vivre sans eau courante ? Aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas indispensables. L'électricité n'est pas indispensable pour vivre, dont on ne peut plus se passer. Moi, j'habite un peu à la campagne. Deux fois par an, on me coupe le courant une heure. C'est la panique. Hein. Vais-je survivre à cet épisode ? Y aura-t-il encore un congélateur demain ? Voilà, donc on est en train. Je crains malheureusement, même si quelques-uns on est encore à lutter pour ne pas se mettre en dépendance, que comme l'électricité, on devienne totalement dépendant de ces choses-là à très court terme. Quoi.
Est-ce que finalement, quand on parle d'intelligence artificielle et on a peur d'une guerre, la question c'est pas l'esprit dans la machine, mais la dilution de l'être humain dans la technologie ? Et est-ce que ça vous interpelle en tant qu'auteur de science-fiction ?
All right. Well, it's a continuation of what's been happening ever since people first invented weapons. That people can become a weapon delivery system rather than a human being engaged in human activities. Right now, there are algorithms used by the United States Air Force to determine targets for drones. If the satellite discovers people behaving in a certain way, then they become very likely a target. Now, at present, there is a human being who decides whether to attack or not to attack. But that isn't necessary. It's desirable, but this algorithm could fight the war all on its own as long as it had sufficient supplies and missiles and so on. There would be, of course, a lot of human tragedy, but the algorithm doesn't care about that. A machine intelligence doesn't know anything about the law, unless it's programmed to know about the law, but the law keeps changing. And the law requires interpretation. I wrote about this in my novel, This Is Not a Game, where essentially it was a trading program meant to trade on various world markets that essentially ran amok, had many unfortunate consequences, and was trading in global currencies and crashing entire markets. But the machine didn't know it was crashing the markets. It didn't know that this was a bad idea. It had only discovered one little trick that enabled it to maximize its profit. So this is something that we're going to see. We have seen it. I wrote about it 30 years ago in Hardwired. As soon as I heard that there was going to be program trading, I knew exactly where it would go wrong. And within a couple years of the book being published, it did go wrong in that way. There was the first flash crash in 1989, I think it was. And we've seen repetitions of that, a lot of them more recently. There are, in fact, hundreds of electronic crashes every day in electronic markets. It's just that there is a human being that catches it and resets the market to where it had been before the mistake occurred. Incidentally, if the crash is an actual crash with all the prices going down suddenly for no obvious reason, the human beings will reset it a lot quicker that way than if it's the opposite. Sometimes there's a flash bubble, in which case all of the prices suddenly rocket upwards for no obvious reason. Because it's a fortunate outcome, the human operators tend to watch that a lot longer before they'll make the correction. But still, there is a human operator involved. The human operator isn't actually necessary for the program to accomplish its mission, however.
Yeah, I think when we talk about our dissatisfactions with the internet and the way it's developing, I think there may be a real issue here that up until very recently, or it may not even have happened yet, we are essentially creating artificial intelligence in our own image and in the image of our intelligences. And the human intelligence is basically a tool that this particular species developed in order to gather enough resources in order to guarantee its survival. And sometimes it has had to fight for those resources. Other times resources have been very scarce. We may not be developing artificial intelligence in a new model that would be based upon the artificial intelligence not having to fight for resources the way we have as human beings for millions of years. If we were able to develop a artificial intelligence, a sort of post-scarcity artificial intelligence, it would not be constantly hammering at us to buy, buy, buy. It would not be constantly trying to manipulate us into getting into our pockets and making us consume more and more and more and just being a commercial operation. I mean, the real tragedy, and people have commented about this, about what has happened to the internet, is that all that bright promise that seemed to be there at the beginning, it's sort of turned into this drab, shabby, advertising thick, merchandising shopping mall that we wander around in, not really very happily. And the bright promise seems to have diminished, at least for the time being. But if artificial intelligence is going to develop in a way that is not based upon human beings' millions of years of evolution, it may be a totally different thing. And as others on the panel have pointed out, we may not be able to comprehend that. There may be a gap between our consciousness and its consciousness just based upon the fact that we spent so many millions of years in an environment where we used our intelligence as a tool for getting resources in order to survive. If a conscious artificial intelligence arrives, can be developed in such a way that it has no consideration, it is assured from the beginning that it will always be able to survive no matter what it does, it may be something completely different from us.
Quelqu'un veut réagir à ça? Il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, monsieur devant. Je ne sais pas si on a un micro qui traîne. Oui, le micro arrive.
Oui, bonjour. Bonjour. Plus qu'une question, je voulais plus avoir une réaction en fait. Je ne sais pas si vous avez vu la série suédoise Real Humans, et je voulais avoir votre retour, justement votre réaction sur l'intelligence et la conscience artificielle dans cette série, parce qu'il y a justement, c'était pas juste une dichotomie intelligence artificielle méchante et humain gentil. Il y a un robot qui découvre la foi avec le luthérianisme. Il y en a qui veulent protéger les humains, d'autres qui veulent les remplacer, etc. Donc ça ouvre un aperçu un peu plus large de la conscience artificielle qui est souvent résumée, en effet, comme vous disiez, à la version de Terminator, de nos positions binaires humains, intelligence artificielle méchante. Voilà. Merci.
C'est un type d'intelligence artificielle assez restreint, parce qu'en fait, c'est des robots humanoïdes dont l'intelligence vise finalement à imiter l'homme. Donc on n'est pas du tout sur l'intelligence étrangère à l'homme, mais on est sur... un duplicata, il y a même, je crois, dans la saison 2, un duplicata du grand-père qui est fait, qui est censé réagir à peu près comme lui, et qui se montre juste encore plus hargneux que et cinglé qu'était le grand-père à la fin de sa vie. Donc c'est une négociation entre l'homme et son double. On est un peu sur Frankenstein, ce genre de choses. Je ne sais pas si on est réellement sur des questionnements sur l'intelligence artificielle telle qu'elle-même. On est plus sur le vieux questionnement sur le robot humanoïde, l'humain artificiel, en fait, voilà. C'est plus l'humain artificiel que l'intelligence artificielle. Moi, je les ai pas. Alors, j'ai bien aimé la série après, hein, c'est très bien écrit, il y a beaucoup d'ambiance et tout. Mais je pense pas qu'ils ont été très loin sur ces questionnements, sur ce qui nous est étranger, justement. On a un peu l'impression que le but de ces robots, finalement, c'est d'être le plus humain possible. Il y a même une robot qui se marie et qui veut avoir des enfants. Enfin, on sent bien qu'elle n'a pas compris qu'elle n'était pas en chair. Et ce genre de choses. Alors, c'est vraiment très intéressant, mais ça explore plus, finalement, qu'est-ce qu'être humain. Que plutôt que la question de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle différente de l'homme. C'est toujours une question d'abord en intelligence artificielle qui est toujours on est toujours dans un rapport très faussé par l'anthropomorphisme, l'anthropocentrisme, cette manière de toujours regarder les choses par notre biais, de la même manière qu'on est incapable de savoir si une baleine est intelligente parce que elle a pas deux bras et deux pieds, et que donc c'est quoi son intelligence puisque ses réactions ne correspondent pas à ce qu'on attend de l'intelligence humaine. Donc voilà, on est face à tout ça. Donc voilà, la série elle est vraiment très bien sur le questionnement qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce que c'est que se faire remplacer par un robot au travail aussi. Des questions qui sont déjà anciennes puisqu'elles datent des années 80, 70 pour l'industrie, mais qui vont continuer parce que quelques-uns d'entre nous vont se faire remplacer par des algorithmes dans leur travail à un moment ou à un autre. Maintenant, ça y est, les robots s'attaquent au cadre. J'en parlais tout à l'heure par rapport aux journalistes, mais voilà. Donc voilà, c'est ces questions-là qui sont posées et la série arrive à point nommé par rapport à tout ça, justement. Après, voilà, moi, elle ne m'a pas donné une vision d'une intelligence autre que la nôtre, justement. Voilà.
Je trouve il y a un abus de langage quand tu dis les robots s'attaquent au cadre. C'est pas les robots qui s'attaquent au cadre, c'est il y a des gens qui décident qu'on va utiliser des algorithmes, oui, et des robots aux ressources humaines ou un domaine où justement il faudrait absolument pas utiliser d'algorithmes et pas faire rentrer des espèces de modèles mathématiques.
Alors, c'est la question de l'esclavage qui est dans la série aussi. Est-ce qu'un robot est un esclave moderne? S'il est conscient et qu'on le fait travailler sans le payer, il devient un esclave. Alors, il y a quelqu'un qui finit par embaucher un des robots comme avocat et à le payer comme s'il était un humain. Et en effet, tous ces algorithmes ou ces machines qu'on met à la place d'un homme, c'est pour avoir un esclave. C'est bien le but, quelqu'un qu'on ne paye pas. C'est pour casser les lois sociales que les humains ont réussi à mettre en place pour se défendre et gagner correctement la vie et pas finir à la mine. Là, on est d'accord, toutes ces choses-là sont faites encore une fois dans un seul but, le profit. À aucun moment, la productivité, c'est un but de profit. C'est pas un but de rendre service à l'homme. Il s'avère que l'augmentation de la productivité a fait que finalement, en Occident en tout cas, les gens vivent plutôt mieux au niveau conditions matérielles qu'à une époque. Mais elle n'a pas été faite pour que les gens vivent mieux. Elle a été faite pour augmenter le profit des gens qui avaient construit des machines. Quoi. On est d'accord là-dessus?
Tout à fait.
Voilà.
Yeah, I think we have another. I have not seen this series, but you did raise an interesting point, which is that so far we've considered a single artificial intelligence. But in this series, apparently, there are many artificial intelligences that have different points of view or in competition with each other. And so the question then becomes, what happens to humanity when they are basically innocent bystanders in a war between artificial intelligences over something that humans can't understand?
Yeah, and certainly the economic element is, probably the most critical one. An unpaid worker is almost, a slave is almost nearly always less productive than a paid worker, but they're unpaid. And so there's a greater profit deriving from an unpaid worker. And so artificial intelligences and robots don't need to be better than human beings. They just need to cost less, and they will, take their place in replace so many people right now who do have to be paid in order to work. And so, I mean, we've seen an enormous increase in productivity per worker over the last 10, 20 years, but the profits from that increased productivity have flowed to a very small percentage of the economy, the 1%. And so in that sense, if those people directing those corporations say, look, I don't need a really good robot, I just need a cheap robot. And cheap robots, cheap to make, cheap to run, but replacing people who are expensive, or even just a little bit more expensive, that tiny margin between what the robot costs and what the human being costs is going to make that hiring decision. And this is going to mean a real problem in terms of what happens to the people who are replaced in the economy by that, these not as good but cheaper robots. And we may be, we're almost certainly looking at great social upheavals based upon this transformation.
On a une autre question.
Oui, justement, on entend, oui. Dans la lignée de ce que vous venez de dire, d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas une sorte de bipartition planétaire quand même en ce qui concerne... Tout à l'heure, on a dit toute la planète est câblée, etc. C'est pas une vision un peu, disons, européano-américano-centriste. Il y a beaucoup de régions qui ne sont pas câblées. Et est-ce qu'on n'est pas déjà en train de créer, sans avoir besoin d'intelligence artificielle ni rien de tel, une sorte de système... binaire d'esclavage entre celles qui ont l'Internet et toutes les intelligences artificielles liées et celles qui ne les ont pas. Est-ce que ce n'est pas déjà un problème humain et qu'en fin de compte, ce serait peut-être ça d'abord, la fameuse guerre du capitalisme en marche?
Bah, l'esclavage existe. Hein. On a décalé nos ouvriers dans les pays les plus pauvres pour les exploiter et avoir des t-shirts à 3 euros. Donc je veux dire, malheureusement, le numérique et les autoroutes de l'information ne font que reproduire ce schéma d'exploitation. Je crois, malgré les grands discours sur le progrès de l'humanité, on est tous d'accord. Mais là, en l'occurrence, je ne crois pas qu'on puisse mettre en accusation le milieu du numérique qui est plutôt un petit peu plus positiviste. On voit quand même beaucoup de projets d'essayer de mettre un Internet gratuit en Afrique, etc., qui se mettent. Donc je pense qu'il y a une certaine bonne volonté dans une certaine frange, en tout cas de la Californie, à se dire ça peut être un progrès pour l'humanité. Malheureusement, on a vu que cette pensée-là, qu'on avait en effet vue au début d'Internet, à chaque fois finit par détourner. Et si on câble parfaitement l'Afrique, ce sera pour leur vendre à l'arrivée des produits. On est bien d'accord. Hein. On sent bien que c'est quand même toujours ça qui est derrière. Quoi.
Les pays pauvres où je suis allé dernièrement sont très très friands de nouvelles technologies, ce que j'ai pu observer en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et en Asie du Sud-Est, dans même les villages les plus reculés, il y a des endroits avec des ordinateurs et Internet. Et ils adorent ça et les gamins sont dessus toute la journée quand ils n'ont pas cours. Et en Afrique, pareil, les connexions ne sont pas bonnes, mais ils ont Internet. J'étais au fin fond du Kenya il y a 2 ans et... j'étais vraiment perdu dans un village et ils avaient Internet, il n'y a pas de problème, j'ai pu envoyer mes emails. Donc je pense que, à part des exceptions vraiment, il faut chercher. Globalement, aujourd'hui, la planète est câblée. Les hommes d'affaires vont n'importe où dans le monde et trouvent une connexion Internet pour travailler, pour envoyer des emails. Donc la session se passe pas là. Elle se passe plutôt, à mon avis, sur ce que... cet environnement propose aux gens dans les pays tiers-monde, c'est-à-dire globalement pas grand-chose, envoyer des emails, faire des jeux en réseau. Est-ce que ça propose dans nos mondes à nous, où ce sont d'énormes vitrines commerciales et quelque part une terre d'opportunités, parce qu'il y a des gens qui font fortune encore aujourd'hui grâce à Internet.
On a... Also, the access to the Internet in the third world has resulted in a change of aspiration that these people can see what's happening elsewhere in the world, what it looks like to live in a stable social democracy, and so on. And so a result of that we've seen has been the Arab Spring. All those movements were started by people who had seen the possibilities of another form of life through the Internet or through satellite television. And they wanted that for themselves, and they became angry that their own governments weren't giving it to them. And so there is that kind of political evolution that's happening. It's totally unintended. I mean, the whole point of satellite television isn't to bring democracy to the masses, it's to sell entertainment, right? But it has this unintended consequence of people seeing something that they want and trying to work toward getting it, using the technology that brought them this information in the first place.
On va s'arrêter là parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci à tous, merci à nos auteurs, pour les retrouver tout de suite en dédicace.